Et avant de lire dans le Nouveau Testament le texte du jour, évidemment vous savez lequel c'est, eh bien je vous invite à prier. Que ton esprit, ô notre Dieu, vienne éclairer et faire se lever ta parole au travers des paroles humaines de la Bible. Que ton esprit, ô notre Dieu, vienne éclairer nos esprits au travers de ce que nous savons, de ce que nous croyons et de ce que nous entendons. Amen. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi je puisse me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous l'avons vu grâce aux enfants, les mages sont partis en voyage. Peut-être avez-vous déjà installé une crèche dans votre maison, et parmi les santons et les figurines, vous avez peut-être placé les mages. Et ceux que vous avez placés, ils sont trois. Et ils sont aussi rois. Et on les appelle dans la crèche, dans ces crèches, les rois mages. Mais vous l'avez aussi entendu dans le récit de Matthieu. D'abord, leur nombre n'est pas précisé. Nous en avions quatre, et pourquoi pas. Et ils ne sont pas rois. Ils sont des mages. Alors, pas des magiciens, mais des savants, des spécialistes des étoiles. Ils les regardent, ils les scrutent, ils suivent le parcours des étoiles, ils établissent des calendriers et aussi ils conseillent ceux qui les interrogent. Dans leur pays d'Orient, quelque part du côté de la Perse, les mages sont écoutés et respectés. Alors ceux-là se sont mis en route pour saluer un enfant qui vient de naître. Un tout petit, dont ils disent qu'il est, lui, ce tout petit, un roi, le roi des Juifs. Ils ont vu l'étoile et ils ont compris, ils ont interprété, c'est leur science, leur savoir. Pour aller le saluer, ils ont Ils sont partis, comme l'ont dit Abel et Jacob. Ils ont traversé des frontières. Ils sont devenus étrangers dans d'autres pays que le leur, passant dans des pays qui n'étaient pas celui de leur roi à eux. Et ils ont dû demander des renseignements, car ils ne savaient pas exactement où était le nouveau-né. Ce n'était pas à Jérusalem, la capitale du pays des Juifs, où ils s'étaient naturellement rendus pour trouver un roi. C'est normal, on va chercher dans la capitale. L'enfant est né à Bethléem, une toute petite ville, presque rien du tout. Et c'est l'étoile qui leur a indiqué la maison où était l'enfant. Oh, sinon, ils ne l'auraient peut-être pas trouvé. Ils lui ont offert des cadeaux. Et puis, ils sont repartis par un autre chemin, parce que le roi Hérode, qui les avait renseignés à Jérusalem, en dépit de son petit discours, n'était pas heureux du tout de la naissance du roi des Juifs. C'était lui, le roi. Donc voilà, c'est une histoire bien connue. Ou pas tant que cela, puisque les mages ne sont pas rois, puisqu'ils ne sont pas trois, et puisque ce n'est pas à la crèche qu'ils trouvent l'enfant. Donc ils ne croisent pas les bergers. La crèche et les bergers, c'est dans un autre évangile, celui de Luc. Matthieu raconte seulement la venue des mages qui ont traversé des frontières, qui sont devenus des étrangers, qui ont dû demander leur chemin et suivre une étoile pour trouver l'enfant, qui lui ont offert des cadeaux et sont repartis par un autre chemin. Tout ça pour vous dire, pour nous faire comprendre, que nous pouvons être des mages. Le voyage des mages peut devenir notre voyage. Un voyage qui ne nous ferait pas forcément parcourir des kilomètres et des kilomètres sur la terre, mais un voyage qui nous ferait avancer dans notre vie. Le voyage de notre existence, notre voyage en humanité. Être vivant et être humain, ce n'est pas seulement être né, c'est aussi partir en voyage. Exister, c'est se déplacer, aller au-delà, plus loin que là où l'on est. Et pour les mages, cela commence avec une étoile. Mais qu'est-ce que c'est que cette étoile ? Ce n'est pas un corps céleste lumineux, une étoile parmi toutes celles de la Voie lactée, une étoile dans une constellation. L'étoile du récit représente un signe qui met les mages en route. C'est quelque chose qui met en mouvement, et dans un sens, pas dans un autre. Ce n'est pas forcément quelque chose d'éblouissant, d'extraordinaire. C'est une étoile, pas un autre soleil, juste un petit point lumineux dans le ciel. Ce qui peut nous mettre en route, nous engager dans notre existence, ce n'est pas forcément un grand événement. Ce peut être une question que l'on se pose et qui en fait vous saisit et ne vous lâche pas. Ce peut être une inspiration qui vous soulève d'un coup, ou une lecture qui vous bouleverse, ou l'exemple d'une personne qui vous touche et vous émeut profondément. Et alors votre conscience s'anime. Ce peut être un tout petit peu de foi, mais qui vous remue l'âme. Et cela donne de l'énergie et un sens. Et alors la vie devient existence. Et ce sens, Matthieu nous dit que c'est celui d'une naissance. Celle du roi des Juifs reconnaissent les mages avec leur science d'interprète des étoiles. Celui qui est né, le petit enfant, c'est le Christ. C'est l'expression de l'amour de Dieu. C'est même l'amour de Dieu. L'amour qui fait la vie, notre vie, vivante. Ce n'est pas seulement une naissance d'il y a 2000 ans à peu près. C'est une naissance qui se réfracte et se produit en tous ceux qui entrent en existence selon cet amour divin qui rend humain. C'est en nous que le Christ veut naître, pour nous mettre au monde autrement, comme des voyageurs qui traversent des frontières, qui deviennent sans peur des étrangers pour rencontrer ceux qui sont différents. Les mages ne se sont pas dit Bon, c'est le roi des Juifs qui vient de naître, d'accord, mais ça n'est pas notre roi, ça ne nous concerne pas, laissons-les se débrouiller entre eux. Non, ils ont été curieux, le nez en l'air, les yeux ouverts, l'esprit ouvert surtout. Et le vaste monde, même celui qui est au coin de la rue, n'est pas effrayant. Il est alors le lieu de l'humanité, à la fois une et diverse. Cette humanité pour laquelle le Christ est venu et vient encore faire toute chose nouvelle. Dans leur voyage, les mages ont besoin d'être renseignés. Tous mages qu'ils sont, ils ne savent pas tout. Tout leur savoir ne suffit pas. L'étoile qu'ils ont vue dans leur lointain pays non plus. Ils doivent demander leur chemin. Nous ne faisons pas notre voyage d'existence tout seuls. Nous avons besoin d'autres, qui ont d'autres expériences, d'autres connaissances, qui ont pris d'autres chemins. Et ici, au foyer de l'âme et dans les églises et les temples, dans les paroisses, nous savons que nous avons aussi besoin de ceux qui ont transmis les Écritures, dans lesquelles sont déposés les témoignages de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël, les appels des prophètes, les prières des psaumes, les récits de libération, les poèmes de larmes ou d'amour. Et nous avons besoin des évangiles et de leurs récits accueillants et incisifs, des lettres des apôtres aux prises avec les difficultés et les questions des premières communautés. Et nous avons besoin de ceux qui les lisent pour les lire avec eux, pour comprendre, pour interpréter, pour nous souvenir et pour inventer. Mais Matthieu n'est pas naïf. Et il sait aussi que toutes les rencontres ne sont pas porteuses de bonté et de vie. Le roi Hérode ne veut rien céder de son pouvoir. Le roi qui vient de naître est pour lui un rival insupportable. Et Hérode cherche à manipuler les mages pour se débarrasser de l'enfant. Les grands prêtres et les scribes, de leur côté, se contentent de lire les Écritures, mais ne bougent pas tellement ils sont bien installés dans leurs habitudes. Pour eux tous, rien ne doit changer, rien ne doit bouger, rien ne doit se transformer. Tout est replié sur du même pour que rien ne puisse ébranler leur pouvoir et pour que leur savoir n'ouvre pas à des conséquences non maîtrisées. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer si ce petit enfant était vraiment le roi des Juifs. Mes chers amis, il faut bien reconnaître pour nous-mêmes que parfois Hérode se cache en nous. Quand nous sommes tentés de nous accrocher là où nous sommes et à ce que nous possédons, que ce soit de l'avoir ou du savoir. Matthieu nous avise, le voyage de l'existence, le voyage en humanité comporte aussi des risques. Et le rêve des mages les avertit de ne pas retourner chez Hérode. C'est une manière de dire que Dieu n'abandonne pas les voyageurs dans leur voyage, même quand il y a des risques. Enfin, les mages ont trouvé le petit enfant. Il est la possibilité d'un avenir. Mais tous les enfants sont la possibilité d'un avenir. Cet enfant-là, parce qu'il est le Messie et le Christ, porte un avenir de justice et de paix. Un avenir où le pain est partagé et où ceux qui tombent sont relevés, accompagnés, soignés. Un avenir où la reconnaissance et la confiance prennent le pas sur la compétition et le pouvoir. Un avenir de libération et de réconciliation. Cet avenir est toujours devant nous. Cet avenir est toujours pour nous et pour les enfants. Un avenir qui attend que nous nous orientions vers lui, qui attend que nous nous mettions à l'ouvrage pour et avec les enfants. Car cet avenir est possible. Alors les mages se prosternent et ils offrent l'or, la myrrhe et l'encens. Et nous aussi, nous pouvons apporter au Christ, et c'est-à-dire apporter dans le monde aussi, ce que nous avons de plus précieux et d'important, pas de l'or ni de l'argent, bien sûr, mais nous-mêmes, avec toute notre valeur d'humain, qui est extrêmement grande, parce que c'est Dieu qui nous la confère en nous disant que nous sommes ses enfants. Nous pouvons apporter la mire, c'est-à-dire notre humanité fragile et limitée, avec ses faiblesses, ses peurs, ses hésitations, ses blessures, parce que tout est recueilli. Et nous pouvons apporter l'encens, c'est-à-dire notre foi, avec nos doutes aussi, nos prières, nos chants, le silence également, parce que tout est accepté. Et alors, nous pouvons reprendre le chemin, continuer notre existence en chemin, en quête, en partage, en confiance, en solidarité, en fraternité, et toujours et encore venir au monde ainsi. Amen.